c'est le livre d'une économiste, Joan Robinson, qui va rejoindre les rayons de notre bibliothèque. Philosophie économique, un essai sur les progrès de la pensée économique. C'est le titre de cet ouvrage, publié en 1962. Et pour en parler, nous avons invité Anne Edou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, membre des économistes atterrés et co-auteur de Défense et illustration de la controverse, Le bilan des 35 heures, paru aux éditions du Croquant. Alors, Joan Robinson a été une figure majeure du post-keynésianisme et c'est l'une des toutes premières économistes de l'histoire à obtenir une reconnaissance académique. Comment la présenter en quelques mots ?
Elle est née en 1903 et est morte en 1983. Elle est née dans une famille bourgeoise qu'on qualifie souvent de contestataire. Elle avait un grand-père socialiste. Elle a d'abord étudié l'histoire et elle s'est tournée vers l'économie parce qu'elle voulait comprendre les problèmes du chômage et de la pauvreté. Elle s'est mariée avec un économiste, Austin Robinson. Ils sont partis 2 ans en Inde et elle y est retournée d'ailleurs. Et elle s'est intéressée aussi aux questions de développement économique. Et en ce qui concerne sa carrière, elle était en poste à Cambridge où elle a eu une carrière assez lente. Elle a eu son poste de chargée de cours en 1934 et elle n'est devenue professeure que sur le tard en 1965. Et donc, comme elle était à Cambridge, finalement, c'est aussi là qu'elle a fait ses études. Elle a été formée à l'économie néoclassique d'Alfred Marshall, c'est-à-dire à des modèles qui représentent l'économie comme une économie en équilibre, un ensemble de marchés concurrentiels qui s'équilibrent spontanément. Et c'est dans ce cadre qu'elle a d'abord travaillé, c'est-à-dire qu'elle-même était plutôt orthodoxe, elle s'est intéressée à la concurrence imparfaite. Et puis ensuite, elle a un peu renié ses œuvres de jeunesse pour devenir une économiste hétérodoxe. Elle a suivi les cours de Keynes, elle a été dans des groupes de discussion d'économistes à Cambridge et donc elle a participé à ce qu'on peut appeler la révolution keynésienne.
C'est-à-dire l'élaboration notamment de ce qui allait devenir la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, donc cet ouvrage majeur de Keynes publié en 1936.
En 1936, voilà. Et puis en même temps, elle est aussi devenue lectrice de Marx et amie d'un économiste hétérodoxe, Michel Kalecki, dont l'analyse était à la fois influencée par Marx et proche de l'analyse keynésienne. Donc il y a un peu ces influences croisées. Marx et Keynes, et puis je dirais qu'elle-même a beaucoup influencé tous ceux qui gravitaient autour d'elle à Cambridge.
Alors une grande partie de son œuvre est consacrée à dénoncer la récupération de Keynes par l'orthodoxie dominante. Elle qualifiait, je cite, de keynésiens bâtards les auteurs de la synthèse entre keynésianisme et théorie néoclassique, une synthèse qui s'est imposée après la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, alors... C'était quelqu'un aussi d'assez critique et décapant envers ses collègues. Personne n'a échappé à sa critique, pas même Keynes. Et c'est ça qui est très intéressant dans le livre dont je vais parler.
Alors dans l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, Philosophie économique, un essai sur les progrès de la pensée économique, Joan Robinson tente de mettre en lumière les fondements idéologiques et moraux des théories économiques, ceux qui se cachent derrière des notions comme celle de la valeur travail par exemple. Cette notion développée par les néoclassiques.
C'est un ouvrage particulier dans son œuvre. D'abord, elle est une théoricienne de l'économie. Donc quand je présente cette œuvre, je ne présente pas vraiment sa théorie. Et dans cet ouvrage Philosophie économique, elle n'expose pas ses propres théories. Elle adopte une perspective d'historienne de la pensée économique pour interroger les méthodes et l'épistémologie de la science économique. Et ça donne un livre assez décapant et réjouissant sur les théories économiques qui sont au fondement de nos modèles actuels. Donc elle commence effectivement par déconstruire les analyses de la valeur des économistes classiques des 18 et 19e siècles, les libéraux comme Adam Smith et Ricardo, mais aussi Marx. Et puis elle s'attaque ensuite à l'économie néoclassique, à la théorie de l'utilité, et enfin au keynésianisme. Personne n'échappe à la critique.
Et en remettant en cause l'objectivité de ces concepts économiques, elle est proche des thèses épistémologiques de Karl Popper, par exemple, le philosophe autrichien.
Elle s'en réclame en tout cas. Donc la thèse du livre, elle me semble intéressante, c'est que les théories et les modèles économiques ont toujours partie liée avec l'idéologie. Et alors je pense que dans les cercles de Cambridge, c'est aussi les endroits où on a introduit Freud. Et je pense que elle est influencée par Marx et Freud, et elle le dit d'emblée au début du livre. Elle parle de Marx qui a montré l'importance des idéologies et de Freud qui a souligné le fait qu'on avait toujours tendance à rationaliser. Et donc, on a l'impression que après Marx et Freud, on peut plus penser la science économique de la même manière qu'avant eux. On peut dire que pour elle, les analyses économiques, c'est des rationalisations qui sont empreintes d'idéologie. Alors,
Alors, par exemple, quelle est la conception de la valeur travail chez les économistes classiques, et en quoi cette conception est-elle d'essence métaphysique, pour reprendre l'expression de Joanne Robinson?
Alors oui, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à des concepts qu'elle appelle concepts métaphysiques. Alors, elle dit quand même que même si la science économique est empreinte d'idéologie, l'idéologie, elle joue un rôle, c'est-à-dire que elle est indispensable dans le monde de l'action et dans la vie sociale, hein, donc c'est pas non plus une démolition complète de la discipline, mais elle s'intéresse tout particulièrement à des concepts qu'elle appelle métaphysiques, c'est-à-dire des concepts qui sont un peu difficiles à décrire et à mesurer. Elle compare le point et l'éléphant. Donc, elle dit que pour décrire un éléphant, il faut trouver des tas de caractéristiques et que c'est un peu compliqué. Et que un point, lui, il peut être décrit mathématiquement par ses coordonnées dans l'espace. Et finalement, un certain nombre de concepts économiques sont, dit-elle, comme des éléphants. C'est le cas de la théorie de la valeur que vous évoquez. C'est-à-dire que pour les économistes classiques des 18e et 19e siècles, la valeur est au centre de la réflexion. Et ils analysent la valeur comme étant une valeur travail pour traiter une question essentielle, et c'est pour ça je pense que Robinson s'y intéresse, qui est celle de la répartition. Et donc pour les classiques, cette valeur travail, c'est l'idée que la valeur se mesure par le travail humain et a pour origine le travail humain. Et ce que dit Joanne Robinson, c'est que finalement, on est un peu en présence d'un éléphant, parce que dès qu'on veut mesurer une valeur avec le travail humain, on a du mal à définir ce travail. Il faut le qualifier. Est-ce qu'on a affaire à du travail qualifié, non qualifié? Ça, c'est des problèmes que les classiques, et surtout Marx, avaient pointés. Et puis, elle montre aussi que ce concept, finalement, il a une portée très subversive que Marx avait saisie, parce que Marx s'empare de la valeur travail, pour dire que le travail est à l'origine de toutes les valeurs, et pour fonder là-dessus sa théorie de l'exploitation. Mais en même temps, cette portée subversive, elle est neutralisée chez les économistes classiques, dit Robinson, parce que eux, avec cette même théorie de la valeur travail, ils défendent le profit, alors que Marx fait le contraire, et finalement, le libéralisme. Donc on peut, à partir de ce concept éléphant, j'ai envie de dire, avoir une série de thèses.
Il y a un autre exemple qu'elle mobilise, la notion de plein emploi chez Keynes,
voilà.
Qui, selon elle, est également éminemment idéologique.
Voilà, exactement. Donc, en fait, elle n'épargne personne. Elle fait le même genre de critique au néoclassique à propos de l'utilité. Et Keynes, que dans son livre, finalement, elle commence par louer, hein, elle dit de Keynes que il a réveillé la belle endormie en introduisant de la temporalité et de l'histoire dans la théorie néoclassique de l'équilibre général, selon laquelle les marchés s'ajustent et s'équilibrent spontanément. Mais elle débusque aussi, chez Keynes, des concepts métaphysiques. Et le plus important, effectivement, c'est le plein emploi. Elle écrit « Le grand concept porteur d'idéologie dans la théorie générale est le plein emploi ».
En quoi est-ce que c'est un concept métaphysique?
Alors, là encore, on retrouve cet éléphant dont elle parle au tout début de l'ouvrage. C'est qu'elle dit que, finalement, cette notion vertueuse du plein emploi, elle s'avère très difficile à définir en pratique. Elle dit que Keynes parle de niveau d'emploi satisfaisant, ou parle du fait que le gouvernement aurait la responsabilité d'assurer un niveau d'emploi élevé et stable. Donc, Joanne Robinson dit, ça, c'est des formules qui sont à la fois vagues et prudentes, ça n'engage pas à grand-chose. Et elle dit, finalement, la notion de plein emploi, elle est condamnée à être vague. Il faudrait qu'on définisse de quel emploi il s'agit. Est-ce que c'est l'emploi à plein temps? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont un petit boulot ou de ceux qui sont dans des formes d'emploi indépendants ou d'auto-emploi? Aujourd'hui, on dirait les micro-entrepreneurs. Mais elle dit, parce que encore une fois, pour elle, l'idéologie, elle fait partie de la science. Elle dit que la théorie du plein emploi, c'est quand même quelque chose de performant, parce que On ne peut pas, d'un point de vue idéologique, écrit-elle, dire que le plein emploi ne peut être atteint. Donc c'est un objectif auquel il n'est pas possible de renoncer politiquement. Mais du coup, il faut qualifier l'éléphant. C'est toujours le problème.
Donc sur tous ces points, on l'entend, elle remet véritablement en question cette notion de plein emploi chez Keynes. Et par ailleurs, on retrouve dans Philosophie économique une phrase qui a été par la suite largement récupérée dans la littérature économique. La misère d'être exploité par les capitalistes n'est rien comparé à la misère de ne pas être exploité du tout. Alors qu'est-ce que Joan Robinson a voulu dire, Anne-Edou ?
Là, on revient à la question du chômage, hein, c'est-à-dire que la misère de ne pas être exploité du tout, c'est le fait de n'avoir pas d'emploi. Ça rejoint aussi peut-être la critique qu'elle fait à Keynes, c'est-à-dire que Keynes, quelque part, n'a pas tout à fait abandonné l'idée que les chômeurs ne travaillaient que si le salaire était suffisant pour compenser ce qu'on appelle la désutilité du travail, c'est-à-dire avec l'hypothèse que finalement, le travail étant une peine, on n'accepte pas forcément un emploi comme ça. Or, Joan Robinson, elle disait que, en parlant de désutilité du travail, Keynes a emporté une pièce du bagage marshallien sans réfléchir. Hein. Donc, elle le critiquait là-dessus. Et elle disait que finalement, les travailleurs, souvent, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter un emploi. Parce que s'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de salaire. Enfin, c'est une question de revenus. Alors, à l'époque, il y avait très peu de filets de sécurité et de protection sociale. Mais on peut dire aujourd'hui qu'on a à peu près les mêmes choses en France. C'est-à-dire bien qu'on ait un système de protection sociale, ce que montrent les enquêtes sur bonheur et travail, c'est que les chômeurs, les allocataires de minima sociaux, mettent au premier rang des ingrédients du bonheur le fait d'avoir un emploi, parce que c'est un facteur d'intégration dans la société.
Joan Robinson s'est plutôt fait connaître grâce à deux autres ouvrages, L'économie de la concurrence imparfaite, paru en 1933, ou encore L'accumulation du capital, publié en 1952. Pourquoi avoir choisi, Anne-Edou, de nous parler de philosophie économique ? Quelle a été l'importance de cet ouvrage dans votre parcours et votre vision de l'économie ?
Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressée aux travaux de Joan Robinson très récemment, c'est mon intérêt pour déconstruire les théories néoclassiques qui aujourd'hui fondent les réformes du marché du travail. Donc, c'est pas des théories qu'elle-même a forcément connues. Et je me suis intéressée à ce moment-là à la déconstruction des courbes d'offres et de demandes établies par les néoclassiques. Donc j'ai été regarder Keynes et je me suis aperçue que Joan Robinson allait plus loin dans sa critique que Keynes. En tout cas, c'est ce qu'elle revendique. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est de voir dans cet ouvrage Philosophie économique, quand elle déconstruit le concept de plein emploi, elle dit que c'est un concept qui peut tout à fait et qui est déjà en 62 repris par les orthodoxes, par les libéraux, voilà, et ça on le constate complètement aujourd'hui. Et pourquoi j'ai lu cet ouvrage Philosophie économique, quand j'ai vu qu'elle avait écrit un ouvrage avec ce titre, dans les notes de bas de page d'autres articles que je lisais, ça m'a intriguée, parce qu'en parallèle de mes études d'économie, j'avais fait des études de philosophie. Je me suis toujours intéressée à l'épistémologie économique et voilà, je me suis procuré l'ouvrage pour cette raison.
Et vous nous avez permis également de le découvrir. Un grand merci, Anne-Edou, de nous avoir éclairé sur cet ouvrage méconnu d'une économiste qui gagnerait elle aussi à être connue. Un grand merci.